Non, 4 à plus, Malo, là ça en fait 18.
Allez. Et je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, dans moins de 6 mois, il y aura bien sûr les Jeux Olympiques.
La Tronquière 2040, c'est quoi?
Une musculature de dingue.
C'est une parenthèse où on ne pense qu'à soi.
Où on voit des tenues un peu fluo, un peu spectaculaires.
Toujours fluo.
Plus fier de moi.
Dépasser mes limites.
Il y a du rythme dans la pétanque, tu vois.
Aujourd'hui, on parle de sport car qu'il rime avec effort ou réconfort, il nous fait toutes et tous vibrer.
Amateur ou professionnel, il crée du lien et de la liesse. Au rythme des pas, des raquettes, des claquettes ou des pao, il inspire les équipes comme les artistes.
C'est pourquoi l'association L'Orange Fluo et la compagnie L'Ours à pied ont imaginé une fantastique fabulation collective, la candidature de La Tronquière aux Jeux Olympiques 2040. Et pour s'échauffer les oreilles et le reste, pour interroger nos rapports au corps, au sport et à nos lieux de vie, Antenne Doc et L'Orange Fluo vous proposent une série de podcasts rythmés.
Bonne écoute.
Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Donc je m'appelle Gabriel, j'ai 31 ans, moi je fais du vélo au quotidien et je fais aussi pas mal de vélo pendant mes vacances parce que je voyage à vélo.
Pourquoi fais-tu du vélo en particulier?
Sur les vélos voyage, je trouve que c'est une manière de se déplacer qui est assez intéressante. C'est plus rapide que la marche à pied et c'est plus lent que la voiture. Donc je trouve que c'est une bonne manière de percevoir les paysages. Et de manière générale, je crois que j'aime bien le vélo aussi pour cette sensation de glisse et d'équilibre.
Comment tu as commencé à faire du vélo?
Alors, à quand est-ce que j'ai commencé vraiment le vélo? Je ne sais pas, j'étais petit. Mais les vélos, le voyage... Alors, je pense que le tout premier voyage que j'ai fait, c'était avec mon père. Et là, je devais être mineur encore, je pense. Et après, mon premier voyage solo, c'était à 19 ans, je crois. Et j'étais très content d'être tout seul, de faire ça tout seul. Et je suis parti de Marseille et je suis allé en Ardèche. Et petite anecdote, du coup, je ne faisais pas du tout de sport. Du coup, dans les collines de l'Estac, pour passer de l'autre côté, vers l'étang de Berre, j'ai lâché une belle galette dans la montée. C'était très sympa. À 8h du matin, une demi-heure après être parti, ça a forgé le destin.
Ça a forgé le destin, pour continuer donc.
Ouais.
Concrètement, avec qui tu fais du vélo et quelle régularité? Et plutôt, où est-ce que tu en fais?
En fait, j'en fais quand même majoritairement tout seul des voyages. Je crois que je préfère être tout seul pour les questions de rythme et de... En fait, quand t'es tout seul, t'as pas trop besoin de négocier quoi que ce soit, quoi. Et ça, j'aime bien. Et après, sinon, j'ai pu le faire avec des copains ou avec des amoureuses. Mais je crois que j'ai jamais fait un voyage à plus de 2 personnes. Où je suis allé, c'est dur à dire, mais le dernier en date, c'était quoi? C'était le Cézallier à vélo en octobre, là, c'était bien, dans le début d'automne. C'était assez joli, mais sinon, il y en a eu vraiment beaucoup. J'ai jamais traversé de frontière avec le vélo, donc je suis resté dans l'Hexagone. Mais pour le coup, je suis allé dans le nord, je suis allé dans le sud-ouest, dans le sud-est... Je ne suis jamais allé en Bretagne, mais il y a eu un quadrillage du territoire quand même important maintenant.
Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte à ton corps de faire du vélo?
Une musculature de dingue. Non, au contraire, je trouve que ça ne me muscle pas beaucoup, c'est un peu frustrant. Mais qu'est-ce que ça apporte? C'est plutôt, plus qu'à mon corps, je pense que c'est à mon esprit. Ça me fait beaucoup de bien quand je suis en vacances sans vélo, pendant plusieurs jours, du coup, que je ne peux pas pédaler. Quand je rentre chez moi et que je peux reprendre mon vélo, il y a vraiment un sentiment de bien-être à retrouver ce jeu d'équilibre-là et de cette sensation de vitesse aussi dans les descentes. Donc ouais, je crois que c'est surtout mental plus que muscler mon chétif corps.
Que retires-tu de tes séances à vélo?
Qu'est-ce que j'en retire? Pas mal d'écoute de podcasts, parce que j'écoute beaucoup de podcasts en pédalant. J'écoute des podcasts que dans les montées. Parce que, en fait, sur le plat, je vais tellement vite. Non, je plaisante, mais en fait, dans le plat, t'entends pas ce que t'écoutes. Donc moi, je mets le téléphone en haut-parleur dans ma sacoche qui est devant. Mais en descente, impossible d'entendre aussi, donc c'est que dans les montées. Donc dans les montées, tu vas à 10 km/h, quoi. Même pas. Et donc, du coup, il y a pas mal de podcasts qui sont liés à des cotes dans ma tête. Et c'est assez marrant, ça, j'aime bien, d'avoir cette, ce mélange auditif et sportif.
Oui, en termes de détente, de plaisir ou de goût de l'effort.
Je trouve que, un peu par rapport à ce que je disais sur la question de la distance que permet de parcourir le vélo, je trouve que c'est intéressant parce que, justement, sur une carte, même une carte de France, tu peux assez rapidement voir ce que tu as parcouru d'une ville à une autre. Et ça, je trouve que c'est super satisfaisant quand tu vois sur une carte, tu vois l'ampleur de ce que tu as traversé. Donc, ouais, ça, je pense qu'il y a pas mal de fierté ou de contentement, en tout cas, à travers ce sport. Et puis, toujours sur ce plaisir du vélo, c'est qu'en vélo, moi, j'aime bien les montées, parce qu'après, il y a les descentes. Et contrairement à la marche, où quand on monte, et ben après, on redescend et on se fatigue les jambes. En vélo, on monte et après, c'est que du kiff pendant plusieurs minutes, quoi.
Est-ce que tu t'es fait des très grosses peurs? Parce que le vélo, c'est aussi le partage avec d'autres usagers, notamment les voitures et certaines, des fois les animaux. Moi, j'ai eu des expériences assez interlopes à vélo. Est-ce que t'en as une ou deux ou...
J'en ai deux qui me viennent. Là. Il y avait un soir cet été, là, quand on rentrait d'Africa Jar, on est allé chercher un spot pour bivouaquer. Pour le coup, on était 4-5 vélos et il y a une biche qui nous est passée devant. Là. C'était assez marrant. Et puis la dernière frayeur en voiture, là, c'est grâce à nos amis gendarmes où j'étais en train de redescendre de Cap de Nac. Et là, un bruit de moto dans le dos. Et putain, il y a trois motards là, qui m'ont doublé, mais tellement vite et tellement proche. Enfin, ça m'a énervé très fort de ce sentiment d'impunité qu'ils avaient. Et moi, je pouvais rien faire. De toute façon, ils étaient déjà trop loin. Et en plus, après, je me disais, mais de toute façon, je peux même pas les engueuler parce qu'ils vont me dire que j'ai pas mon casque ou je sais pas quoi. Et du coup, je me suis juste écrasé et j'ai subi le courroux des gendarmes motorisés.
Trouves-tu qu'il y a des enjeux de genre dans le cyclisme ?
Eh ben oui, hein, je pense comme dans beaucoup de sports. Après si on peut parler d'une discipline dans le voyage à vélo, je trouve qu'il y a quand même une évolution. Il y a notamment un cycloféminisme qui prend de l'ampleur et qui réalise des documentaires, qui écrit des livres par rapport à ça. Donc je trouve que ça a tendance à évoluer et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de témoignages et de récits de femmes qui voyagent seules à vélo. Donc je trouve qu'il y a un changement là-dessus. Après, si on prend le cyclisme de haut niveau, là c'est terrible. Quand on voit les différences de traitement entre le Tour de France masculin, le Tour de France féminin, on est vraiment sur deux échelles médiatiques, financières, vraiment très différentes, même si... On pourrait se dire qu'il y a une évolution favorable sur la mise en valeur du cyclisme au féminin ces dernières années, mais je trouve que c'est malheureusement encore dérisoire par rapport à ce qui est fait ou si on compare avec le Tour de France masculin.
D'après toi, est-ce qu'il y a d'autres types d'inégalités
qui sont perceptibles dans cette pratique ?
Après, le vélo de manière générale, comme c'est quand même un sport où on utilise un objet... Il y a des différences de classe qui sont quand même assez importantes, parce qu'il y a des vélos qui coûtent 50 balles si on va à la roue FEDER, mais il y a aussi des vélos qui coûtent plus de 10 000 euros si on ne va pas à la roue FEDER. Effectivement, on pourrait voir quand même qu'il y a une différence de classe. Après, moi, je suis quand même... dans mon approche du cyclisme voyage, moi, j'ai un vélo que j'ai retapé, récupéré dans un atelier d'autorep à Paris. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et je trouve que on peut aussi faire du voyage à vélo avec une rogne. Il suffit d'avoir trois plateaux, sept vitesses, un porte-bagages. Mais moi je trouve que c'est quand même un sport qu'on peut faire avec du matos un peu de merde. Et même moi, je trouve que c'est assez chouette de voir les cyclo-voyageurs, cyclo-voyageuses avec des épaves. C'est classe.
Est-ce que tu dirais que c'est un sport inclusif ?
Oui, je pense qu'en tout cas, il n'y a pas d'équipe de cyclo-voyageurs hommes et cyclo-voyageurs femmes qui font des compètes. Donc, même j'ai en tête là des courses cyclistes comme le Paris-Brest. Je ne crois pas qu'il y ait des catégories hommes ou catégories femmes. sur ces courses-là. Mais bon, en vrai, je n'y connais pas grand-chose. Mais ouais, on va dire que le vélo de voyage est plutôt inclusif.
Tu parlais de la roue FEDER. Où est-ce qu'on peut la trouver ?
Ouais, donc la roue FEDER, c'est l'atelier d'autoréparation de vélo de Figeac. Aujourd'hui, l'atelier se situe à La Forge, près du rond-point dont je ne connais pas le nom, mais qui est sur la partie est de la ville. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur larouefeder.org.
Merci beaucoup.
De rien du tout.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Ah oui, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Non, ben longue route aux cyclo-voyageuses.
Pas croisé. Arrête, Job. Et on revient dans le même sens. Et un par couloir. En marche arrière. En course arrière. Premier arrivé à la poubelle. Et on essaye de pas tomber, d'accord ? Parce que là, si tu tombes en arrière, il y a la tête qui tape et... Ça fera un joli bruit pour l'intro, mais bon. Attendez, je cherche mon CP. Si je suis pas premier, je fais 10 squats sautés.
Concentre-toi, pas tomber. Moi, c'est une merci. Et voilà, on a Alice qui est tombée.
Ça va Alice ?
Bon, ça ne fatigue pas.
On essaie de pas tomber. Vous avez des jambes, vous avez des bras.
Alors tu me disais, tu as commencé l'athlétisme quand ?
J'ai commencé l'année dernière parce que je suis partie vivre en Allemagne pendant un an. Et du coup, je me suis dit que je commençais une nouvelle vie, donc ce serait le moment de commencer un nouveau sport.
Et tu faisais quoi avant ?
Avant, je faisais de l'équitation et de l'escalade.
D'accord.
Et du coup, là, je continue l'équitation, mais du coup, j'ai arrêté l'escalade pour faire de l'athlète.
Et pourquoi l'athlète dans ta nouvelle vie ?
C'était pour avoir un meilleur cardio et me muscler aussi. Et puis, j'aime trop sauter, etc. Du coup, les haies, la hauteur, donc c'est pour ça.
Et ça te plaît ici, à Figeac ?
Oui, franchement, oui, ça me plaît. J'ai fait plein de nouvelles rencontres. Les gens sont super sympas, donc c'est chouette.
Juste, t'es allé faire quoi en Allemagne pour finir ?
C'était une année d'échange dans le but de faire une immersion culturelle.
Ok, génial, merci beaucoup. Et juste une petite dernière question, ça te procure quoi comme sensation physique quand tu cours et quand tu sautes ? Est-ce que tu arriverais à les qualifier ?
Ben, je pense qu'il y a un peu d'adrénaline quand on saute. Moi j'aime bien, enfin je sais pas trop dire, mais... Je ne peux pas décrire en vrai.
Bon, ça va, c'est très bien comme ça. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
En cours, normal ? À fond. Si je ne suis pas premier, je fais 10 pompes. Si je ne suis pas premier, je fais 10 pompes. Je préfère en marche arrière, Alice.
Là, c'est bon.
C'est bon ?
C'est bon.
Alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 53 ans et je pratique du trail depuis l'âge de... J'ai fait mon premier marathon, on va dire, à 30 ans. Et ensuite, je suis passée au trail vers 35 ans. J'ai toujours fait de l'activité physique, du sport, depuis l'âge de 12-13 ans. Ça m'a toujours beaucoup apporté, notamment dans des moments difficiles de la vie, que ce soit pour des raisons de santé ou des raisons psychologiques.
Comment et pourquoi tu as commencé en fait ? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la course à pied ?
Alors, la course à pied, j'avais besoin de canaliser mon énergie, en fait. Et je me suis aperçue qu'au travers du sport, c'était une façon naturelle de le faire. À ce moment-là, j'avais beaucoup de capacités physiques. Et je me suis aperçue que c'était un très bon moyen de canaliser l'énergie. Petite, donc, du coup, c'était des sports plutôt rapides. Ensuite, j'ai fait une école d'infirmière, puisque je suis infirmière. Et là, un peu moins de temps, mais toujours une nécessité de canaliser cette énergie et de m'apporter beaucoup de bien-être. Par la suite, pour des raisons professionnelles et autres, ça a été aussi un moyen de faire de l'activité comme je voulais, quand je voulais. Parce que avec des enfants, ce n'est pas toujours facile de pouvoir, et en étant infirmière, de pouvoir participer à des horaires. Voilà. Donc ça a été vraiment une liberté que ça peut apporter et une force. Notamment à des moments difficiles de ma vie, je faisais les entraînements proportionnels à la difficulté rencontrée dans la vie. Et du coup, j'étais jusqu'à un marathon, puis un ultra-trail.
Donc quand tu fais un ultra-trail, c'est que tu es en période difficile ?
Exactement. La difficulté est proportionnelle à la difficulté vécue dans la vie. Et je me suis toujours aperçue que je baissais pas les bras pour rien. Et justement, c'est une force parce que un entraîne l'autre. C'est-à-dire, si je suis pas bien personnellement, je force un petit peu avec l'activité physique et vice-versa. Et ça apporte un équilibre, que ce soit physique comme psychologique.
Je voulais te poser cette question, ce que tu en retires très concrètement d'un point de vue corporel et d'un point de vue moral. Comment tu te sens, en gros, pendant, après, comment est-ce que tu vois aussi évoluer ce rapport au corps à force d'évolution chronologique aussi de ta pratique ?
Alors, c'est clair qu'on s'aperçoit que quand on fait de la course, selon la longueur, l'intensité et la difficulté, on s'aperçoit que il y a une sécrétion d'hormones qui fait qu'on est de mieux en mieux et on a plus de plaisir quand on fait plus de kilomètres, finalement. Il y a plus de difficultés, mais derrière, on ressent plus de plaisir. Et c'est peut-être un peu quelque chose qu'on pourrait appeler comme une dépendance, parce que plus on en fait, plus on a besoin d'en faire. Et plus on a besoin d'en faire, on a toujours envie d'en faire plus. Et là, on peut tomber dans une dépendance qui est peut-être négative.
Donc, toi, ça t'est arrivé, tu l'as vécu comme tel ou...
Ouais, je l'ai vécu comme tel à une période où je m'en suis servi vraiment comme thérapie. Je me suis aperçue, enfin mes enfants m'ont permis de m'apercevoir que finalement j'étais tombée dans un cercle vicieux où j'avais plus de liberté. J'avais perdu ma liberté face au sport. Et là, je m'en suis rendu compte, eux se sont permis de me le dire. J'ai rectifié le tir et à ce jour, je ne suis absolument pas dépendante et je suis tout à fait libre. J'ai moins de résultats, mais finalement plus de plaisir, je pense.
Oui, c'est quand ça devient une charge mentale de plus. Je vois très bien ce dont tu veux parler ou quelque chose comme quand on s'octroie plus le temps de ne pas.
Exactement. Quand dès le matin, on se lève et qu'on se dit « là, il faut que j'y aille
ouais. »,
on peut se dire que je pense qu'on est rentré dans la dépendance.
Sortir de la dictature des « il faut », quel qu'il soit, hein, pas que lié au sport. Et tout à l'heure, on évoquait en déjeunant ensemble la différence de pratique entre courir sur route, courir dans la forêt et comment, en vieillissant dans un corps féminin, ce qui est notre cas toutes les deux, la pratique change. Donc, est-ce que tu peux en dire un mot de toi, ta pratique en fait ? Pourquoi maintenant tu préfères la forêt à la route ? Pourquoi tu préfères la montée au plat ?
Je pense qu'en vieillissant, on ne recherche pas les mêmes choses dans le sport. Moi, perso, c'est vrai qu'à l'âge de 30, 40 ans, je recherchais plutôt la performance et que je trouvais d'ailleurs. Du coup, tout allait bien et j'étais portée par ça. À ce jour, en vieillissant, effectivement, la performance y est moins. Et ce qui me porte, c'est plus le plaisir de regarder la nature, de rechercher tous les sens qu'il peut y avoir, l'odorat, l'ouïe, le toucher des fois. Enfin, voilà. Et ça me porte plus que les résultats purement sportifs. Du coup, dans la nature, dans le trail, on voit plein de choses à des moments différents. On peut passer 10 fois sur le même chemin si c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, on va trouver des animaux différents, on va trouver des odeurs différentes, on va trouver des arbres différents et tout ça porte et ça n'a pas de prix.
Ouais.
Super. Une petite dernière question factuelle. Tu peux dire à quelle régularité maintenant tu pratiques et sur quelle distance ?
Alors actuellement, je pratique 3 entraînements, on veut dire, par semaine. Mais je peux le faire 4 fois, je peux le faire 0. Enfin, j'ai au moins 2 fois par semaine des cours de gym où j'aime bien y aller parce que je vois d'autres personnes aussi. Et le sport, ben, en ce moment, il pleut beaucoup. Donc malgré tout, j'arrive à y aller 2 fois par semaine. Je prépare une course 28 km, donc je vais essayer d'augmenter à 3 fois. Mais bon, je ne me mets aucune pression par rapport à tout ça. Maintenant, c'est la liberté face au sport avant tout.
Et tu cours quelle distance en moyenne à peu près ?
Alors, sur les entraînements, c'est entre 10 et 15.
Ouais, quand même, c'est des entraînements conséquents. Ah oui, attends, j'avais une dernière question puisqu'on est là en e-sport. Est-ce que tu estimes qu'il y a des efforts d'inclusion qui sont faits dans les clubs d'athlétisme du coin, si tu les as fréquentés ou non, et ou quelles sont les contraintes spécifiques à l'entrée dans ce sport pour quelles sont les formes d'inégalité, si tu veux, dans l'accès à la course?
Alors, au niveau de la course, je pense qu'il peut y avoir des efforts d'inclusion de fait, puisque j'ai vu pas mal de personnes en faire qui peuvent avoir des handicaps sensoriels, enfin auditifs. Auditifs, c'est sûr. Bon, après, j'ai pas fait non plus multiples courses sur des grands trucs. Par contre, si on augmente sur le sport en général, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes handicapées incluses dans des groupes. Personnellement, moi, je vais à un groupe de sport 2 fois par semaine et il y a une petite trisomique qui vient faire de l'activité avec nous. Elle fait ce qu'elle peut, mais je trouve qu'elle a sa place. Elle permet de dire ce que nous, on n'ose pas dire. Et finalement, elle a sa place. Et quand elle n'est pas là, elle manque.
C'est super. Merci. Tu veux rajouter quelque chose ou...
Je veux juste dire que l'activité physique en général peut apporter beaucoup et que je pense que c'est un traitement à part entière.
Merci. The door.